Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les premiers chrétiens avaient comme symbole un poisson ictus en grec. Les chrétiens d'aujourd'hui pourraient reprendre ce symbole, voire même choisir celui d'une truite dans la vie chrétienne peut sur bien des points sembler à contre-courant. Mes invités de ce matin en sont des poissons et des poissons de choix, si je puis dire, décidés à remonter le courant, choisissant de donner leur vie pour dire que Dieu existe dans une France qui semble avoir fait profession de foi de scepticisme, choisissant le célibat dans un monde qui envisage difficilement qu'il puisse rimer avec amour, choisissant de servir l'Église à l'heure où cette dernière n'a pas bonne presse. Rencontre ce matin avec les futurs ordinés de cette année 2020. Devenir diacre ou prêtre en 2020, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et pour nous en parler, pour nous parler de cette folle aventure qui va être la leur, autour du plateau, Philippe Arnal, vous êtes clerc de Saint-Viateur pour le diocèse de Rodez. Vous allez être ordonné diacre en vue du sacerdoce. Vous êtes avec nous par téléphone, bonjour.
Oui, bonjour.
Jesús Miguel Cerrito, vous êtes séminariste du diocèse de Toulouse, vous êtes d'origine vénézuélienne et vous allez être ordonné aussi diacre en vue du sacerdoce, bonjour.
Bonjour.
Et Aymar de Longotier, vous êtes diacre pour le diocèse de Toulouse et vous allez être ordonné prêtre le 28 juin prochain, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire donc que approche la date qui est, j'allais dire date anniversaire, la date à laquelle chaque année les diacres et les prêtres sont ordonnés. C'est à l'occasion de la Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul tombent chaque année le 29 juin. Cette année, c'est un lundi et donc c'est pour ça que vous allez être ordonné diacre et prêtre le dimanche qui précède. On peut dire d'ores et déjà que dans notre sud-ouest, même s'ils n'ont pas pu être avec nous, il y a deux autres hommes qui vont être ordonnés diacres, Giovanni Belma et Robert-Marie Beaufort. Ils sont tous les deux ordonnés diacres pour le diocèse de Fort-de-France pour la Martinique. Alors, beaucoup de choses à dire. On va faire connaissance avec vous. On va commencer par, on va dire, les généralités. J'ai demandé à la Conférence des évêques de France de me donner les chiffres de cette année pour savoir combien de prêtres allaient être ordonnés, d'où ils viennent. Ils m'ont dit que leurs chiffres n'étaient pas prêts. Alors, j'ai retrouvé ceux de 2019. J'ai vu 125 nouveaux prêtres. C'était en 2019. Quel commentaire ça attire pour vous, Philippe Arnal, cette centaine de prêtres qui sont d'hommes qui sont ordonnés chaque année? Qu'est-ce que vous dites? C'est toujours ça?
Disons que c'est d'abord une joie qu'il y ait des hommes qui se laissent appeler puis qui répondent à la suite du Christ. Bien sûr, ça peut nous paraître bien peu au vu des besoins de l'Église, mais je crois que c'est... Nous avons ici, avec ces chiffres-là, on a la faiblesse peut-être d'une église, la faiblesse d'une présence ecclésiale en France aujourd'hui. Et en même temps, je crois, des vies et des histoires qui se donnent au service d'abord du peuple de Dieu et puis du monde aussi, qui a peut-être besoin d'un message d'espérance, surtout par les temps qui courent.
Alors, Aymar de Longotier, même question. 125, une centaine par an, qu'est-ce que ça, pour vous, attire comme commentaire? J'imagine que je ne suis pas le premier à vous poser la question.
Moi, ça me réjouit de voir autant de prêtres être appelés par le Seigneur et répondre à cet appel. Alors qu'ils soient 125 ou 2000, c'est la même chose. Chaque histoire est singulière, chaque histoire est le résultat d'un appel particulier par le Seigneur et d'un homme qui répond à cet appel. Alors, cette année, j'ai la chance d'y participer, je dirais, en tout cas de concrétiser cet appel en étant ordonné prêtre. Mais je vois avant tout 125, et cette année peut-être, j'espère, un peu plus, prêtres, diacres qui sont appelés par le Seigneur et qui vont donner leur vie entière pour le service de l'Église. Alors, les chiffres, cette année, m'importent peu parce que j'y suis, mais ça reste une histoire, chaque histoire est particulière et... Et voilà, ça fait 125 prêtres de plus qui se donnent pour l'Église.
En tout cas, on peut dire à propos de ces prêtres aussi certaines tendances de fond. Alors là, c'était un article du journal La Croix qui rapportait ce chiffre, qui rappelait quand même, en conclusion de l'article, c'était un petit peu dur de lire ça, qu'il y avait 800 décès de prêtres chaque année en France. Il y a des choses contrastées, laissées entendre cet article, c'est-à-dire des diocèses qui n'ont pas d'ordination ni diaconale ni presbytérale, et ce depuis longtemps, et d'autres réalités, on va dire, beaucoup plus enthousiasmantes, si je puis dire. La communauté de l'Emmanuel, qui a régulièrement beaucoup d'ordination, la communauté Saint-Martin, qui est près à près de 10 par an, le diocèse de Versailles aussi. Bref, tous les voyants ne sont pas au rouge, loin s'en faut. Et j'ai souvenir, alors si on reste toujours dans les généralités et dans les chiffres, d'avoir lu au long des émissions que j'ai pu conduire ici à Radio Présence, qu'en fait, rapporté au nombre de catholiques pratiquants, c'est toujours un peu le même ratio en fait de chrétiens, j'allais dire pas forcément qui sont appelés, mais en tout cas le même nombre de prêtres par catholique pratiquant. Est-ce que vous aussi, Mardolon Gauthier, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu?
Oui, j'ai vu ces statistiques que en fait depuis 30 ans, un prêtre a le même ratio de mariage et de baptême, donc ça veut dire que tout diminue en même temps, avec aussi la pratique des fidèles. Alors, on a souvent appelé ça une crise des vocations, et on le redit chaque année en fin juin, il y a peu d'appelés, peu d'élus, mais en fait, quand on regarde en termes de proportion, on a le même nombre de fidèles, et un prêtre a le même nombre de pratiquants, par exemple, que le curé d'Ars à l'époque. Sur la paroisse où je suis, il y a entre 400 et 600 pratiquants, c'est à peu près la même taille qu'au XVIIIe siècle, sauf que là se rajoutent les 20 000 autres âmes dont il faut s'occuper. Mais sinon, c'est souvent, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est une baisse de la pratique religieuse et une baisse de la foi.
Donc toujours autant de pasteurs pour le troupeau, si on doit reprendre cette image. Alors j'aimerais dans cette première partie, que puisqu'on est à la veille de ce grand jour, particulièrement pour vous, Aymar de Longotier, mais aussi pour vous, Philippe Arnal et Jesús Miguel Cerreto, qui allait être vous ordonné diacre, que vous nous parliez de votre formation. Vous sortez du séminaire, alors vous avez eu des années d'exercice pastoral, particulièrement vous cette année, Mardolon Gauthier. C'est pareil, dans un autre article de La Croix, on pouvait cet article lire ce mot, c'est un métier hors du commun que celui de prêtre. Alors peut-être que vous ne seriez pas d'accord avec le mot métier, mais comment se prépare-t-on, Philippe Arnal, à ce grand service?
Je crois aussi de façon très différente. Personnellement, je suis religieux, donc on a d'abord une formation peut-être en philosophie, en théologie, qui précède notre appel au sacerdoce. Je suis rentré finalement très tardivement au séminaire. Cette formation nous permet peut-être aussi de réinterroger notre foi à nouveau frais, d'interroger aussi l'appel de l'Église, interroger aussi notre réponse aussi à cette Église.
Qu'est-ce qu'on voit
à travers nos études de philosophie, de théologie, peut-être redécouvrir aussi la richesse de cet apport, peut-être aussi notre vue aussi sur la théologie, la philosophie, ce qui nous permet de nous mettre à la page, si ce n'est pour notre foi et à l'appel du Christ, c'est aussi peut-être de notre possible et notre demande de témoignage vers les communautés vers lesquelles nous serons envoyés après.
Alors Philippe Arnal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au séminaire, on fait de la philosophie, on fait de la théologie, on apprend à prier, c'est l'essentiel, tout est dit là-dedans, ou est-ce qu'on y apprend d'autres choses?
J'espère aussi qu'on y apprend autre chose, on y apprend aussi à vivre en communauté, on y apprend aussi à nous frotter à d'autres avec leur sensibilité, leur vie aussi, mais leur appel propre aussi. On apprend au-delà, je crois, aussi de la philosophie, de la théologie et de la vie fraternelle à cultiver sa vie intérieure. Un pasteur, qu'il soit futur diacre ou futur prêtre, doit, me semble-t-il, aussi pouvoir témoigner, mais aussi vivre tout simplement cette relation interpersonnelle avec le Christ.
Aymar de Longotier, qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps pour se préparer On dit parfois en souriant qu'on se prépare au mariage en un an ou deux. Et vous, vous passez presque 6 ans, c'est ça hein, c'est
8 ans pour
8
moi.
8 ans au séminaire. Voilà, si vous deviez ouvrir la porte du séminaire pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous y avez fait pendant ces longues années ?
Ce que disait Philippe, c'est que la formation au séminaire est basée autour de 4 piliers. Donc on a la formation intellectuelle, donc philosophie, théologie. On a la formation fraternelle, donc être en communauté. Au séminaire ici, quand j'y étais, on était entre 30 et 40 séminaristes. Donc comme disait Philippe, ça pique et ça frotte un peu, mais en même temps, ça permet de mieux se connaître et de ne pas se sentir seul. Ensuite, nous avons une part spirituelle, une formation spirituelle. On est accompagné par un prêtre, on a une vie spirituelle assez forte. On doit passer entre 1 et 2 heures par jour dans la chapelle. Et ensuite, on a la formation pastorale. Le week-end, les séminaristes vont en paroisse, qui leur est attribuée par l'évêque, et découvrent, un petit peu comme un stage en alternance, découvrent les différents aspects de la vie d'un prêtre le week-end. Et donc du coup, entre 7 et 8 ans, pendant 7 et 8 ans, on fait ça. Donc la formation du séminaire n'est pas axée uniquement sur les études. On n'a que 5 ans de formation pure intellectuelle. Et en fait, tout le reste, la vie fraternelle, spirituelle et pastorale, est aussi axée et tourne autour de ces études. Donc on n'a pas le cerveau en surchauffe quand on sort du séminaire, mais je crois et j'espère qu'on a les pieds bien sur terre et en tout cas une meilleure connaissance de soi-même.
Jesus Miguel Cerreto, alors donc vous êtes séminariste pour le diocèse de Toulouse, vous êtes d'origine vénézuélienne. Je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre pays, le Venezuela, puisque on imagine que pour les raisons politiques que l'on connaît, parce que je rappelle donc il y a un régime presque dictatorial dans votre pays, hein, qu'il y a un exode massif, certainement. Enfin, vous avez fui votre pays. Vous êtes ici donc dans le sud-ouest pour quelque temps. Dans votre pays, c'est un peu la même situation que chez nous, au contraire, beaucoup plus de pratiquants, plus d'ordination. Qu'est-ce que vous nous diriez?
Au niveau culturel, mon pays, c'est un pays très pratiquant, très pratiquant de la religion catholique. Et avec les problèmes politiques de mon pays, avec la crise politique, et les églises sont de plus en plus visitées par les fidèles. Et aussi dans les séminaires, il y a une augmentation du nombre de séminaristes qui ont rentré dans les séminaires. Et aussi les ordinations, les numéros d'ordination. Ça veut dire que la crise politique a aidé au peuple de chercher le Seigneur, de trouver le Seigneur, de mieux prier.
Il n'y aura pas d'ordination au Venezuela, en fait. Les ordinations, tous les séminaristes sont à l'extérieur du pays.
Pardon ?
Est-ce qu'il y aura des ordinations dans votre pays ou est-ce qu'en fait tous les séminaristes sont à l'extérieur du pays en fait ?
Non, ils sont dans le pays, dans les séminaires dans le pays. Et il y a eu déjà quelques ordinations pendant la période de confinement.
Alors, on vous interrogera plus tard parce que vous avez eu la gentillesse de venir et je ne veux pas vous mettre à la torture. Déjà, vous parlez très bien français, mais vous me disiez que vous n'étiez pas forcément hyper à l'aise. On est presque à la veille donc du grand jour. Je lisais parmi les choses que j'ai lues, je lisais cette remarque, je crois, qui est de Monseigneur Dornelas, qui disait qu'en fait, la vie de prêtre, ce n'est pas une vocation, ce n'est pas une vie extatique. C'est que dans le fond, le quotidien d'un prêtre, c'est un quotidien simple, le bien ne fait pas de bruit, et qu'il fallait comparer votre vie à la vie d'un marathonien. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contraste, Aymar de Longo-Thiers ? Vous êtes ordonné prêtre, il y a quelque chose de très grand, d'incompréhensible pour beaucoup, voire d'étrange, et pour autant votre vie est, on va dire, simple et ordinaire ?
Exactement, vous avez employé l'image de la truite tout à l'heure qui remonte le courant. Je me rappelle d'une parole de Benoît XVI lors de JMJ en 2011 qui disait « N'ayez pas peur d'être à contre-courant de la société ». Donc ça c'était pour les chrétiens, les jeunes qui allaient s'engager. Et j'ai perçu cet appel au niveau personnel en m'engageant encore plus dans la paroisse étudiante à l'époque. Et en découvrant la paroisse cette année comme diacre, où j'y étais quasiment les 90% du temps, je me suis rendu compte que, de fait, la vie d'un prêtre au quotidien est assez simple, mais en même temps assez profonde, parce que le prêtre est celui qui donne Jésus aux gens. Et même si on peut paraître parfois débordé, et ben toute notre journée, on a donné Jésus aux gens, à travers des choses prévues ou imprévues, à travers l'administration des sacrements ou non. Mais toute notre journée, on donne Jésus aux gens. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment, en me couchant le soir, que j'avais passé une bonne journée.
Philippe Arnal, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ? C'est-à-dire, à la fois, c'est vu quelque chose comme quelque chose d'extraordinaire par le grand public et même par beaucoup d'entre nous, par beaucoup de chrétiens. Et en même temps, la vie de prêtre, c'est une, on va dire, c'est un long labeur. Si ce n'est pas un travail de marathonien, c'est un travail peut-être de paysan. Chaque jour, il faut sortir et travailler au champ.
Oui, peut-être aussi, tout simplement. Aymar parlait de remonter à contre-courant comme une truite, mais peut-être au-delà de cette image de remonter à contre-courant, c'est peut-être tout simplement la présence aussi dans le bain dans lequel nous sommes plongés. Il me semble que le prêtre, c'est l'homme de l'union de Dieu avec l'âme, de l'union de Dieu avec son Église, peut-être aussi de ce désir de Dieu de voir tous les hommes sauvés. Il me semble que au-delà d'un travail remis tous les jours sur nos obligations de lien, de créer du lien aussi, d'essayer de redire Dieu aussi à ce monde qui le cherche, mais qui a parfois beaucoup de mal à le trouver ou à lui laisser assez de place, eh bien c'est cette présence tout simplement dans le monde. Alors bien sûr que les prêtres aujourd'hui peuvent sembler, si ce n'est à contre-courant, un peu comme des ovnis débarquant d'une autre planète, mais tout simplement peut-être créer des échanges, créer du lien aussi, pour redire la bonne nouvelle du Christ.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver, pour ceux qui nous quitteraient maintenant, deux rendez-vous. Et je donnerai l'ensemble des rendez-vous à la fin de l'émission. En tout cas, pour vous, donc pour le diocèse de Toulouse, c'est donc le 28 juin. Rendez-vous est donné à 16h à la cathédrale Saint-Étienne pour vos ordinations diaconales et presbytérales. Et pour le diocèse de Rodez, c'est ce même jour, mais à 15h30. 15h30, Rodez, cathédrale Notre-Dame. Et 16h, cathédrale Saint-Étienne, le 28 juin prochain.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Devenir diacre ou prêtre en 2020, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous partons à la rencontre, d'une certaine manière, de nos héros, j'allais dire, du Sud-Ouest, puisque en cette fin d'année, le 28 juin prochain, donc veille de Saint-Pierre et Saint-Paul, vont être ordonnés diacres en vue du sacerdoce quatre hommes, dont deux sont en plateau. Philippe Arnal, vous êtes clerc de Saint-Viateur, où ça sera pour le diocèse de Rodez, et Jesús Miguel Cerreto, pour le diocèse de Toulouse. Et Aymar de Longotier, vous allez être ordonné, vous, donc, vous êtes aujourd'hui diacre et vous allez être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse. Alors, on fait connaissance avec vous, après ces présentations un peu générales. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet et que vous nous disiez pourquoi. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous dévoiler les secrets de la vie de votre âme. On va commencer avec vous, Philippe Arnal. Pourquoi, dans le fond, vous voulez devenir prêtre? Parce qu'on imagine que c'est un appel, certes, en tout cas, on l'entend, mais c'est un appel auquel on consent, et j'imagine, de tout son cœur. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à cette question?
C'est peut-être d'abord une réponse à une interpellation de la part de mes supérieurs. Je suis religieux, et peut-être que lorsque je suis devenu religieux, ce qui me touchait le plus dans la vocation de clerc de Saint-Viateur, c'était l'éducation.
Alors, rappelez en deux mots ce que sont les clercs de Saint-Viateur, parce que sinon on ne va pas réussir à suivre.
Peut-être, oui. C'est une congrégation religieuse fondée au XIXe siècle par un prêtre de l'archidiocèse de Lyon. Tout simplement, après la Révolution française, ce curé de paroisse a été interpellé par la pauvreté de ses paroissiens, mais aussi par l'illettrisme des enfants dans sa paroisse. Et il avait besoin d'hommes qui pouvaient l'aider pour le catéchisme, pour tenir les paroisses et pour aussi enseigner dans les écoles paroissiales.
Alors, cette précision faite, redites-nous, vous, ce qui vous touchait, donc c'était de devenir éducateur, mais quel est le lien avec la prêtrise alors ?
Alors, devenir éducateur, mais aussi dans la congrégation, il y a des prêtres qui sont au service des paroisses. Et peut-être que les deux, d'ailleurs, pendant ma formation à l'Institut catholique à Toulouse, j'ai continué aussi à enseigner. Il me semble que le service de l'Église, c'est aussi cette présence-là, aussi à ce monde, à travers bien l'éducation. C'est un gros mot, mais ça fait partie de l'opus proprium de l'Église, c'est-à-dire être au service par l'enseignement, l'éducation, le service aux plus petits, aux plus pauvres et aux malades. Alors ça, que ce service séculaire de l'Église pour le monde passe aussi à travers ça. Et être prêtre aujourd'hui, il me semble aussi que cette présence-là passe aussi par une présence à la jeunesse. Alors l'école permet cette présence-là, peut-être à des jeunes qui se posent des questions, mais qui sont aux marges de l'Église, voire un peu loin de l'Église, pour certains. C'est une façon aussi d'annoncer cet évangile.
Alors juste, plus jeunes, ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est donc vous avez choisi donc une congrégation qui est une congrégation enseignante, et l'appel à la prêtrise, la raison pour laquelle fondamentalement vous avez envie de devenir prêtre, c'est pour annoncer Dieu en fait à cette jeunesse, c'est ça ?
Je crois, oui. Annoncer Dieu aux jeunes.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça vous est venu d'une certaine manière? On entend que là, ça a été un appel à l'intérieur de l'appel, que vous étiez d'abord religieux. C'était une interpellation, une intuition. Souvent, il faut remonter au premier moment pour entendre le désir ou la racine de ce pourquoi. Vous, comment vous identifieriez le début de cet appel?
Le témoignage, tout simplement, témoignage de prêtres et de religieux de ma congrégation. J'étais en plein milieu de mes études et un prêtre de ma congrégation m'a interpellé pour venir lui donner un coup de main pour faire de la catéchèse, pour préparer aussi des futurs confirmants. Et je crois que cette interpellation m'a permis aussi voilà, de découvrir, de toucher du doigt l'importance de l'annonce de l'Évangile aux plus jeunes, et combien aussi cette présence à la jeunesse est dans ce lien qui passe par tout simplement la catéchèse, par les camps de jeunes l'été, par aussi l'engagement de ces jeunes-là au service des plus petits, des plus pauvres. C'est une façon d'annoncer l'Évangile.
Aymar de Longuetier, même question. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question du pourquoi ?
Je pense avoir reçu l'appel à l'âge de 7 ans, quand je me préparais ma première communion. Un désir assez indescriptible, mais en tout cas j'ai ressenti une énorme force en moi et le Christ qui me disait « je te veux comme prêtre ». Et à partir de ce jour-là, j'ai ressenti une vraie joie et un vrai bonheur quand je m'imaginais comme prêtre. Et bon, après, cet appel ne m'a jamais vraiment quitté jusqu'à mon entrée au séminaire, mais ça a été tout au long de mon adolescence une présence discrète du Seigneur tout au long de ma vie qui continuait à être présent et concrètement ça se matérialisait par un accompagnement spirituel dès mon collège avec un prêtre à qui je parlais régulièrement de ce désir mais d'autres choses aussi, par le scoutisme, par l'aumônerie, par une activité en paroisse et au fur et à mesure cet appel a grandi en moi. J'ai quand même fait des études d'après mon bac et après ces études là, après 2 ans de BTS, je me suis vraiment posé la question et mon père spirituel m'a aidé en ça en disant est-ce que je continue sur une voie professionnelle qui m'intéressait beaucoup ou est-ce que je rentre au séminaire. Et donc ce choix était un petit peu dur mais en même temps évident. Je suis rentré au séminaire et j'en suis jamais ressorti.
Et alors ça c'est là, on sent en fait que vous avez été, on va dire, attiré, séduit, interpellé, mais si vous deviez répondre à la question du pourquoi, qu'est-ce que vous diriez ? Pourquoi est-ce que dans le fond, vous allez devenir prêtre ?
Pour répondre à l'appel du Seigneur qui m'a appelé dès mon plus jeune âge. Et je suis j'ai compris ça au fur et à mesure de ma formation. Je suis un instrument du Seigneur et il passe à travers mon caractère, mes forces et mes faiblesses pour annoncer son nom aux personnes qui me seront confiées.
Est-ce que dans le fond ça reste aussi un peu un mystère pour vous ? C'est ce qu'on entend quelque part ou...
L'appel, oui, ça reste un mystère. Ouais. Ça reste un mystère. On en parlait tout à l'heure sur les chiffres. Pourquoi il y a moins de prêtres aujourd'hui ? Est-ce que le Seigneur appelle moins ? Est-ce que le Seigneur appelle autant mais les personnes ne répondent pas ou ne savent pas répondre ? Ça reste un appel. Et pourquoi moi ? Pourquoi dans ma famille ? Pourquoi pas mon petit frère ou mes petites sœurs ? Voilà, ça reste un mystère, mais le mystère de la vocation de l'appel, c'est de savoir y répondre.
Jesús Miguel Cerreto, qu'est-ce que vous répondriez vous aussi à cette question, peut-être difficile ?
Oui, la vocation sacerdotale, c'est toujours une question de foi, et parce qu'on ne peut pas parler d'un appel si on n'a pas la foi. C'est une pratique de la foi. Moi, je suis né dans une famille catholique, je suis catholique depuis ma naissance. Et à l'époque de l'adolescence, j'ai décidé de quitter l'église. C'est un moment difficile. Après, je suis revenu de l'église. J'ai commencé à participer dans une équipe de préparation de retraite spirituelle. Et à partir de ce moment-là, avec la pratique, l'apostolat et aussi l'aide de mon premier père spirituel, et j'ai commencé à faire le discernement de l'appel que je sentais dans mon cœur, que Dieu m'appelait, et avec son aide et avec les services.
Alors juste, si on doit s'arrêter là-dessus, en fait, quand vous dites qu'on sent un appel, ça veut dire quoi ? En fait, on sent l'appel à prendre soin du peuple de Dieu, on sent l'appel à une union particulière avec Dieu.
Comment c'est un appel à servir l'Église, à l'évangélisation, et à servir au peuple de Dieu, à l'évangélisation, oui, c'est ça. Et de plus en plus, il y a quelque chose qui t'appelle, qui te dit que le Seigneur t'appelle.
Philippe Arnal, si on pose passe à une autre question, après le pourquoi, c'est le pour qui. Alors vous, on a entendu que parce que vous êtes religieux, donc des clercs de Saint-Viateur, qui est une congrégation enseignante, votre appel est pour les jeunes, surtout, en tout cas je crois l'avoir compris. Qu'est-ce que vous répondriez quand même à cette question du pour qui ? Pour qui allez-vous ordonné diacre et puis probablement après prêtre ?
Il me semble que la question du pourquoi et du pour qui est forcément très liée. Je crois même d'ailleurs que à la première question que vous posiez tout à l'heure du pourquoi, c'est certainement surtout pour qui. Et je crois on vous a tous répondu que c'était plutôt pour la suite du Christ et pour le Christ et pour l'annoncer. Mais ce sera aussi pour les gens vers qui je serai envoyé en paroisse, bien sûr les jeunes. Bien sûr, les jeunes, même s'ils sont un peu rares dans nos paroisses rurales, c'est aussi vers toutes les personnes qui essaient encore de vivre leur foi et leur suite du Christ dans nos paroisses et qui continuent à les faire vivre par leur présence, par leurs engagements. Mais peut-être aussi, au-delà de ces chrétiennes très engagées, c'est aussi peut-être vers ceux qui sont moins engagés, qui pourraient se poser des questions et qui sont à la porte de nos églises, continuer à sortir dehors pour annoncer cette bonne nouvelle.
Alors, on va dire, là, et on entend, hein, je ne veux pas du tout me moquer de vous, hein, mais on entend évidemment la profondeur de votre désir, et puis on imagine qu'elle est partagée par chacun d'entre vous. Mais ça n'est aussi un mystère pour personne que vous ne pouvez pas être, on va dire, partout. Pendant la pause musicale, Aymar de Longuetier, on revenait sur ce ratio de prêtres qui, soi-disant, n'aurait pas, quelque part, diminué au regard du nombre de chrétiens pratiquants en France. Mais vous me disiez qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a aussi tous les autres et tous les autres qui viennent quand même toquer de temps en temps à la porte de vos églises pour, au moins, les mariages ou alors les enterrements. Alors, le pape François a l'habitude de dire, il a cette image très parlante, de dire que si on reprend l'image de la brebis, de ce pasteur qui va chercher cette brebis qui manque à son troupeau de 99 brebis, il dit souvent qu'aujourd'hui, il y a une brebis dans le troupeau et 99 autres dehors. Vous allez être ordonné pour le service de l'Église et du peuple de Dieu. On imagine que ça va vous prendre beaucoup de temps. Et pour autant, vous avez un pape et probablement le désir aussi d'aller chercher ces 99 brebis. Comment vous allez réussir à faire les deux, Aymar de Longuetier ?
C'est une très bonne question et j'aime beaucoup cette parabole je crois qu'il l'a appelé pas François, du coiffeur pasteur qui coiffe sa brebis qui reste. C'est sûr, c'est une vraie question qui se pose à nous, mais c'est pas, en tout cas de mon côté, c'est pas angoissant, c'est plutôt une source de joie de dire ben voilà, il y a de la mission. On n'est pas Superman, on n'est pas Iron Man, donc on va faire ce que l'on peut. Moi, je suis encore sous l'obéissance d'un curé, donc je ne suis pas le seul décisionnaire sur la paroisse. Mais voilà, concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on peut annoncer Jésus à un plus grand nombre de personnes ? Et ce que j'ai découvert cette année dans le diaconat, c'est que ça passe déjà par l'écoute, et ce que disait aussi Philippe, par l'écoute des paroissiens ou des personnes qui sont dans la rue. Par exemple, jeudi soir, j'ai fait le choix d'aller faire du sport, parce que j'aime bien le sport, notamment le rugby, et donc j'ai fait du rugby dans le club de Montastruc, là où j'étais, et je n'ai rien fait de spécial, si ce n'est jouer au rugby et prendre une bière juste après. Eh bien, je crois que ça peut être une forme, en tout cas, le Seigneur donne certains charismes pour aller vers d'autres personnes que nos paroissiens, et ça peut en faire partie, comme de faire telle ou telle autre activité, si ce n'est de répondre quand même aux obligations de la vie d'un prêtre. Mais il ne faut pas être, je pense, angoissé par cette question, ou séparé en disant « je traite d'abord les paroissiens, et ensuite, quand j'aurai du temps, je traiterai les autres personnes ». Non, tout vient ensemble, et si nos paroissiens sont suffisamment missionnaires, et ben en fait, c'est eux qui feront le travail avec nous, et pas à notre place. Il n'y a pas que nous qui devons évangéliser, tous les laïcs, tous les paroissiens fidèles doivent évangéliser aussi, et donc doivent nous amener les personnes à nous.
Le pape François, qui donc, oui, en effet, pour reprendre son image, dit que le Seigneur ne vous appelle pas à être des pasteurs, mais ne pas être des brosseurs de brebis. Voilà, étant entendu que sinon, vous passeriez trop de temps à brosser la brebis unique qui est à l'intérieur du troupeau. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver en cette fin d'émission. On parlera aussi un petit peu actualité. Vous lisez la presse comme tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse chahute régulièrement l'Église et puis qu'à l'intérieur de l'Église, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Derrière aussi le pape François sur le fameux cléricalisme. J'aimerais bien vous entendre et je pense que les auditeurs aussi sur ce sujet délicat.
Présence à Millau 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Devenir diacre ou prêtre en 2020, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en vue de la prochaine Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est donc de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est donc le 29 juin prochain. Et la veille vont être ordonnés dans le sud-ouest, donc diacre en vue du sacerdoce, 4 hommes et un qui va être ordonné donc prêtre autour du plateau, donc Philippe Arnal, clerc de Saint-Viateur. Et qui va être ordonné diacre pour le diocèse de Rodez, Jesús Miguel Cerreto, séminariste du diocèse de Toulouse, qui va être lui-même ordonné diacre, et Aymar de Longotier, déjà diacre, qui va être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse. Voilà pour les présentations et pour ceux qui nous rejoindraient. Alors, en cette dernière partie d'émission, je voulais, peut-être est-ce un tropisme de journaliste, mais malgré tout, c'est dans l'air du temps, y compris dans l'air de l'Église, revenir de manière peut-être un peu provocatrice ou frontale sur cette question du cléricalisme. Alors, je m'y autorise parce que le pape François en parle souvent. Il dit même que c'est une forme de perversion, pour reprendre ses mots. Récemment, il y a une femme qui s'est présentée, qui a candidaté pour devenir archevêque de Lyon. C'est donc Anne Soupa. Anne Soupa est donc avec Christine Pedotti à la tête du comité de la JUP. Je ne citerai pas Anne Soupa. Mais je citerai la présidente du mouvement Annuncio, qui est un mouvement d'évangélisation, Mélanie Duflo, qui dit la chose suivante. « Je pense que la démarche de Madame Soupa, certes provocante, permet de penser à la distinction possible entre sacerdoce et service de gouvernance, et ça mérite réflexion, non ?» Philippe Arnal, comment est-ce que vous lisez cette actualité? Est-ce que pour vous, ce sont des questions quelque part importantes alors que vous allez être ordonné diacre?
Je crois que le service d'animation de nos communautés chrétiennes qu'elles soient des communautés paroissiales, qu'elles s'élargissent dans des territoires tels que des diocèses, ou ne serait-ce aussi que des services d'animation bien plus larges au niveau de l'Église, concernent tous les chrétiens. Il me semble que le service d'animation n'est pas réservé seulement qu'aux pasteurs. Les chrétiens, le sacerdoce baptismal aussi est animé par ces trois monéras, c'est-à-dire ces trois axes que sont bien sûr l'enseignement de la parole de Dieu, sont aussi l'animation et la gouvernance et la conduite d'une communauté, la sanctification aussi. Chacun d'entre nous, notre baptême nous appelle à témoigner de ces trois axes.
Mais pour autant,
il me semble que...
Pour autant, Philippe Arnaz, si je me permets de rebondir, ce que j'ai cru comprendre de votre vocation particulière, c'est que vous êtes au service de l'annonce de la parole de Dieu, vous êtes au service donc de la vie sacramentelle, et quand même la particularité, semble-t-il, de votre vocation et du prêtre, c'est donc de participer ou d'avoir la responsabilité justement de la gouvernance. Et toutes ces questions et cette démarche provocante d'Anne Soupa vient interroger cette gouvernance. Est-ce que, comment vous la prenez à titre personnel? Est-ce que, comme Mélanie Duflo d'Annunzio, vous vous dites, tiens, pourquoi pas? C'est de fait, il faut y réfléchir, ou alors est-ce que ça vous semble incongru?
Ah, si vous parlez après de l'incongruité ou d'une animation donnée à tous les baptisés, je crois que les femmes sont aussi baptisées que les hommes, et que saint Paul nous rappelle qu'il n'y a que dans le baptême, il n'y a plus païen ou ancien juif, ou il n'y a plus non plus femme ou homme, plus c'est de ce genre de distinction. Je crois que pour ce qui est de l'animation, l'interprétation d'Anne Soupa paraît bien sûr provocatrice, paraît bien sûr un peu ébranler quelques certitudes de quelques hommes qui pourraient être bien placés au niveau des services d'animation. Mais peut-être que cette question ou cette interpellation, au-delà de la provocation, vient nous interroger aussi, mais pas seulement que les futurs prêtres ou les prêtres ou nos évêques, sur la place que nous pouvons tenir dans le peuple. Les Aveyronnais ont une tradition pastorale séculaire, et je crois que conduire un troupeau, c'est non pas taper sur la tête des brebis en les poursuivant, laisser passer devant et montrer le chemin, et se retourner de temps en temps pour voir si les brebis suivent. Et il me semble que l'animation d'une communauté, c'est aussi ça. C'est passer devant, montrer l'exemple, et regarder de temps en temps si les brebis suivent. Et il me semble que pour le service d'animation, bien sûr que les prêtres sont appelés à animer et à conduire le peuple qui leur est confié, et à le sanctifier aussi, et à leur enseigner, mais il me semble aussi que cette responsabilité, elle doit être vue comme un service, et non pas comme un lieu où se joueraient des questions de pouvoir et des questions de domination des hommes sur les femmes ou des femmes sur les hommes. Peut-être qu'à la juste place de chacun, il me semble aussi que nos communautés paroissiales, alors pour avoir l'expérience de communautés rurales où nous sommes, il y a très peu de prêtres ou très peu de futurs prêtres ou de diacres pouvant animer les communautés, se pose aujourd'hui la question de l'engagement des baptisés à la conduite de ces communautés.
Alors, Aymar de
Longuetier, il me semble qu'à nouveau frais, il faut se poser.
Il faut s'interroger, c'est ce qu'on entend en tout cas dans ce que vous dites. Aymar de Longuetier, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Je ne veux pas du tout être désagréable, mais c'est vrai que quand le pape François identifiait le cléricalisme comme une maladie au cœur de l'Église, et qui en faisait quelque part l'ennemi de l'Église à l'occasion des récentes affaires de pédocriminalité, on imagine quand même que ça résonne dans votre cœur de futur pasteur et que ça vous interroge. Et qu'est-ce que vous entendez derrière cette critique, mais enfin cette mise en garde du pape François?
C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler au séminaire, j'ai beaucoup lu la presse, j'ai beaucoup questionné des amis prêtres sur ce cléricalisme Jamais trop très bien su cerner la définition du cléricalisme, parce que j'ai l'impression que chaque théologien, chaque prêtre a sa définition. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un vrai malaise dans l'Église et qu'on essayait, et le pape François a juste raison, de chercher un peu les causes de ce malaise. Mais très sincèrement, depuis que je suis en paroisse à Montastruc et depuis un an où j'y suis, j'ai jamais entendu parler par les paroissiens de cette question-là. Et je crois même que les prochains mois seront plus compliqués pour l'Église et qu'on aura, je pense, d'autres problèmes à traiter, comme par exemple accompagner les fidèles dans la crise économique que nous allons subir, comme le fait de les rassurer pour qu'ils reviennent à la messe, parce qu'il y a eu un temps de confinement qui a fragilisé certains pratiquants. Donc comment aller récupérer ces brebis qui sont sorties de l'enclos, ou comment réorganiser la paroisse au sein d'unités plus petites si d'autres virus ou pandémies reviennent. On a bien vu qu'on ne pouvait plus organiser l'église, nos paroisses, avec des échelles de plus de 30-40 personnes. Donc je pense que tous ces problèmes seront plutôt au cœur de la vie des prêtres dans les prochains mois que des questions de cléricalisme.
Mais alors la question qu'on vous pose quand même, c'est pas pour les prochains mois, c'est pour votre vie, puisque vous êtes appelé entre autres à conduire ce troupeau, pour reprendre l'image avéronaise de Philippe Arnal. Est-ce que vous envisagez cette gouvernance comme une gouvernance quelque part partagée au regard de toutes les interpellations qu'on peut entendre, ou est-ce qu'il y a selon vous en fait une particularité aussi de l'appel sacerdotal qu'il faut entendre de la part des fidèles ou mieux comprendre?
Bien sûr qu'il y a une gouvernance partagée, et je pense d'ailleurs qu'elle est vécue en paroisse par les EAP, par le fait d'avoir des responsables de groupe, qu'ils soient hommes ou femmes, le fait que chacun puisse se sentir en tout cas investi dans la paroisse par telle ou telle responsabilité. Donc cette gouvernance, en tout cas dans les paroisses où je suis passé, était présente, et je n'ai jamais vu de prêtre exercer de manière autoritaire son pouvoir en disant « je suis prêtre et c'est comme ça que ça se passe parce que j'ai été ordonné et pas vous ». Donc je n'ai jamais vu ça, et en tout cas j'essaierai moi d'être prêtre comme cela, à l'exemple des curés qui me seront donnés. Et donc je crois vraiment que cette question de Anne Soupa, par exemple, a été intéressante. Elle le dit elle-même, hein, qu'elle ne comptait pas être archevêque de Lyon, mais en tout cas elle posait la question. C'est la question de la gouvernance, et pape François l'a prise très à cœur aussi, avec différentes polémiques qui ont suivi, mais sur la question de la gouvernance et la place des femmes dans la gouvernance. Parce que la place des femmes dans nos églises, on sait qu'elle est archi présente et que les femmes sont bien présentes et engagées dans nos paroisses.
Jesús Miguel Cerreto, quel écho ça trouve chez vous? Est-ce que le fait d'être d'origine vénézuélienne vous fait regarder, et dans une société peut-être chrétienne qui a un autre regard sur le prêtre, vous fait regarder tout ça un peu avec des grands yeux ébahis ou étonnés? Est-ce que vous avez l'impression que cette question du cléricalisme, ça n'est pas une question chez vous au Venezuela?
Non, le cléricalisme dans mon pays n'est pas un problème. Le peuple aime beaucoup les prêtres, ils sont toujours bien accueillis. Et je pense aussi que nous sommes tous appelés à grandir au niveau spirituel, au niveau personnel, humain. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à nous faire toujours un examen de conscience qui nous aide à grandir au niveau spirituel, et aussi à écouter les critiques du pape François qui pourraient nous aider à grandir au niveau de chrétien, au niveau personnel, comme chrétien.
Et ben voilà, donc des futurs diacres et prêtres plein de sagesse. On va rappeler pour la fin de cette émission donc les différents rendez-vous. Pour le diocèse de Rodez, donc si les paroissiens, les fidèles et au-delà donc de ce diocèse veulent vous accompagner, Philippe Arnal, l'occasion de votre ordination diaconale, c'est donc le 28 juin prochain à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Pour le diocèse de Toulouse, pour accompagner Aymar de Longotier et Jesús Miguel Cerreto, c'est donc ce même jour à 16h à la cathédrale Saint-Étienne. Et puis pour accompagner deux autres hommes qui vont être ordonnés diacres, Giovanni Bellemin et Robert-Marie Beaufort du diocèse de Fort-de-France pour la Martinique, ça sera en la cathédrale Saint-Étienne de Cahors ce même jour à 15h30. Oui, vous voulez ajouter?
Je précise que l'ordination sera en direct sur la page YouTube du diocèse de Toulouse, parce qu'évidemment avec le Covid, les places dans la cathédrale seront limitées. Donc nous serons très heureux de vous avoir en direct. À la caméra.
Vous faites bien de préciser ça, et probablement que c'est le cas aussi pour les autres diocèses, donc rendez-vous sur YouTube, vous tapez le nom des diocèses et certainement que vous aurez des moyens de retransmission. Un grand merci à vous d'être venu ce matin nous partager donc quelque chose de votre vie de diacre ou de futur diacre ou de futur prêtre à la veille ou presque de ce grand saut. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.